J'ai un conseil de survie pour vous. Si jamais vous êtes perdu dans les bois, commencez à parler de politique et quelqu'un se présentera pour argumenter avec vous. Il semble que, quelles que soient les circonstances, certains soient prêts à s'engager dans un débat politique avec d'autres. Mais vous et moi, nous ne participons pas au système politique de ce monde. Nous ne votons pas, nous nous abstenons de prendre parti. Nous restons neutres, ou mieux encore, nous nous tenons du côté de Dieu, nous adhérons à son plan, nous nous en tenons à sa volonté. Cette semaine, les États-Unis ont élu leur nouveau président. Le processus électoral est horriblement long, épouvantablement coûteux, et ultimement, les vainqueurs sont déterminés par Dieu. Selon Romains 13:1 et Daniel 4:17, les autorités existantes sont établies par Dieu et Dieu les donne à qui il veut. Cette année a été qualifiée de la plus grande année électorale de l'histoire, avec près de la moitié de la population mondiale se rendant aux urnes. Selon l'agence de presse Reuters, plus de 2 douzaines d'économies devraient organiser des élections générales cette année, en 2024. Aujourd'hui, nous comprenons que tous les dirigeants humains ne sont pas à la hauteur. Les hommes politiques cherchent à se faire élire, puis se démènent pour mettre en œuvre des politiques et des programmes dans le peu de temps qui leur est imparti. Mais les progrès qu'ils réalisent sont souvent réduits à néant par une nouvelle administration adverse. Malgré cela, le plan de Dieu s'accomplira. Et tandis que les dirigeants changent et que les politiciens modifient leur politique plus rapidement que vous ne pouvez le dire, notre appel personnel demeure inébranlable. Un appel et une élection bien plus importantes. Au milieu de la clameur des attaques politiques et des bavardages des experts, la sélection discrète par Dieu des futurs dirigeants du monde s'est déroulée régulièrement pendant des millénaires. Les Écritures mentionnent les élus et une élection. Mais à quoi cela fait-il référence? La Bible mentionne un appel, mais de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, explorons l'importance de l'appel et de l'élection de Dieu pour en comprendre les obligations et les récompenses. J'ai intitulé ce sermon « S'appliquer à affermir notre appel et notre élection ». S'appliquer à affermir notre appel et notre élection. Mais qu'est-ce qu'un appel? Les Écritures nous rappellent que l'appel de Dieu n'est pas une simple coïncidence, mais un acte délibéré de Dieu le Père. Il nous attire activement vers le Christ, un choix intentionnel de sa part. Comme Jésus l'a dit dans Jean 6:44 et aussi au verset 65, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Cette attirance, décrite par le terme grec « elkouo », est plus qu'une légère attirance. C'est une puissante attirance vers lui. Nous pourrions l'assimiler à une traction. Reportons-nous à 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. C'est un passage clé. Dans 2 Pierre 1, versets 10 et 11, Pierre nous dit au verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Verset 11, « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Or, ces choses, comme vous pouvez le lire dans les passages qui précèdent, sont une liste très puissante des qualités que nous devons ajouter et joindre l'une après l'autre. Au verset 10, le mot « vocation » est le mot grec « klesis » qui signifie « invitation ». C'est une invitation. Il a la même racine grecque que « ecclesia » signifiant « église », comme dans l'Église de Dieu, pour ceux qui sont les appelés. Les appelés. Le mot « élection » que nous voyons ici est « ecclodge », signifiant « élection », « sélection » ou « choix ». Le choix de Dieu de mettre son alliance à la disposition de chacun d'entre nous. Nous pouvons penser aux circonstances dramatiques entourant l'appel de l'apôtre Paul, frappé d'aveuglement sur le chemin de Damas et dialoguant avec le Christ ressuscité et divin. Ce fut très bouleversant. Mais Pierre était aussi un homme qui était très familier avec son appel. Prenons note maintenant de l'appel de Pierre et ses diverses leçons et comment ceci s'applique à ce que nous avons vécu, à ce que nous vivrons encore et à l'invitation qui nous est lancée. Dans Matthieu 4, versets 18 à 22, Matthieu 4, versets 18 à 22, Matthieu 4, 18, comme il, Jésus, marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Dieu a donc appelé ses premiers disciples, dont Pierre, mais aussi Jacques, Jean et André. Pierre, Jacques et Jean sont devenus les trois principaux disciples. Pierre étant le porte-parole et celui que Jésus-Christ a utilisé comme chef. Nous comprenons que Paul était l'apôtre des païens et Pierre était l'apôtre des Juifs. C'était le plan qui était prévu au premier siècle en raison des circonstances qui existaient à l'époque. Dans Matthieu 16, nous savons que les Juifs ne fréquentaient pas les païens. Dans Matthieu 16, versets 13 à 19, Matthieu 16, versets 13 à 19, le verset 13, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, Petros, un caillou, et que sur ce roc, il se réfère à lui-même, sur ce roc, Petra, un rocher massif ou un immense rocher, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est une autorité qui est conférée. Au début du ministère du Christ, après que Jésus ait nourri les 5000 personnes, Pierre a marché sur l'eau pour venir au Christ. une situation très dramatique.
Dieu le Père a appelé Pierre. Il l'a invité à venir.
Et une occasion s'est présentée à lui. Cet acte de marcher sur l'eau était un acte de foi incroyable, un acte de confiance. Nous avons entendu parler de cela dans la sermonnette. Mais cette confiance s'est transformée en incertitude lorsque Pierre a commencé à regarder l'environnement autour de lui, les vagues, le vent. Il a commencé à couler.
Le Christ lui a tendu la main et l'a aidé. Il était là.
Il y a littéralement des hauts et des bas dans ce récit. Il en va de même pour nous. Combien d'entre nous, dans notre appel personnel, par Dieu le Père, qui nous invite à conclure une alliance avec lui, ont connu des hauts et des bas dans notre appel?
Dieu ne nous donne pas tous les hauts au début et les bas par la suite, ni l'inverse. Nous apprenons par ce processus à faire confiance à Dieu en vivant de la foi du Christ afin d'en développer davantage, tout en ayant nos regards constamment fixés sur lui.
Dans les dernières heures de Jésus, lors de sa dernière Pâque, Pierre a renié le Christ à 3 reprises, même après avoir été averti à l'avance. Nous voyons cela dans Luc 22, verset 34. Luc 22, verset 34. Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. »
Le Christ l'a prévenu. Voici ce qui va arriver. Et dans Luc 22, versets 61 et 62, Luc 22, versets 61 et 62,
il y a un moment incroyablement poignant. Si vous vous mettez à la place de Pierre, qui était averti, qui était appelé, ayant quitté les filets, suivi le Christ, invité par le Père à faire partie de cette alliance, de cette relation avec lui.
Mais tout s'est passé comme le Christ l'avait dit.
Verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, les yeux dans les yeux.
Les yeux dans les yeux.
Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. »
Et étant sorti, il pleura amèrement.
Il sortit et pleura amèrement. Pierre était confronté à sa nature faillible et faible.
Il avait commis une faute. Et il pensait sans doute qu'il ne pourrait jamais se faire pardonner. C'était une situation pénible. Il est sorti et il pleura amèrement.
Mais vous savez, nous voyons dans Jean 21
un récit incroyable.
Jean 21. Après le reniement du Christ par Pierre, le Christ ressuscité lui a pardonné et a réaffirmé son amour pour lui. Il voulait s'assurer que Pierre n'était pas terrassé par le chagrin de l'avoir renié, et il le fortifia pour les défis à venir. Dans Jean 21, le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, au verset 15.
Et vous vous souvenez du récit, ils étaient en train de jeter leur filet, et Jésus dit au verset 5 à 7,
Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Et il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. »
Et ils jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, qui est Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Et comme le récit le raconte, le rivage n'était pas très loin, mais cela montre le zèle et l'empressement de Pierre à être avec le Christ. Au verset 12, Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et au verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? » Cela semble faire allusion à la déclaration de Pierre dans Matthieu 26, verset 33, où il dit, Matthieu 26, 33, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Le Christ a mis la déclaration de Pierre au premier plan dans son esprit. C'est quelque chose que nous devons comprendre avec Dieu. Dieu veut la vérité dans notre fort intérieur. Dieu travaille avec nous en nous amenant à l'esprit même les choses que nous ne voulons pas affronter. Lorsque cela se produit, nous pourrions dire que c'est un moment d'abattement. Mais Dieu le voit pour le caractère qu'il construira, pour ce qui sera produit à partir de ce moment. Le caractère, la vérité, le rejet du mensonge. Parfois, toutes ces choses merveilleuses n'arrivent pas autrement. Et dans ces moments-là, nous pouvons pleurer amèrement, en voyant Dieu d'une manière personnelle, les yeux dans les yeux, pour ainsi dire, et en disant « Oui, je ne fais pas tout ce que j'ai été appelé à faire. » Jean 21, 15, et il lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes agneaux. » Et il lui dit une seconde fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre, ayant renié le Christ à trois reprises, il semble que le Christ, dans un court laps de temps, répète à Pierre ces trois questions profondes pour rétablir leur relation dans son intégralité. Verset 17, « Pierre fut attristé. » de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Pierre sentait le poids de cette demande et se souvenait de ce qu'il avait fait. Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Verset 18, « en vérité, je te le dis. » Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. C'est un peu comme quand il était sur le bateau. Il avait enlevé son vêtement d'extérieur et travaillait avec les filets. Mais maintenant, Christ dit, en parlant d'un temps futur, verset 18, « en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. » Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » C'est une sorte de boucle, car si vous y réfléchissez bien, André, selon le récit synoptique, c'est lui qui a amené Pierre à Jésus. Puis c'est le Christ qui lui a dit « Suis-moi ». Nous voyons les hauts et les bas, cet itinéraire détourné, pourrait-on dire. Le reniement à trois reprises, puis le Christ qui rassemble tout, réaffirme son amour pour Pierre et l'établit à nouveau. Comme s'il disait « C'est bon, je te pardonne. » Selon le commentaire Jameson, Fawcett et Brown, il cite « La blessure profonde que l'honneur du Christ avait reçue, la tâche portée à sa fonction, le dommage causé à sa position élevée parmi ses frères, en parlant de la fonction et de la position de Pierre parmi ses frères, et même son propre confort, exigeait un renouvellement de son appel et un rétablissement de sa position comme celui-ci. » Il fallait cela pour qu'il revienne à la case départ. Il a fallu ce moment si douloureux qui toucha vivement son cœur pour le rétablir et qu'il puisse se remettre en selle. La rédemption de Pierre, après avoir renié le Christ, illustre avec force sa réponse à son appel. Elle montre le pardon du Christ, ainsi que le dévouement et la croissance personnelle de Pierre, même après un échec spirituel. Le fait est que les bas ne restent pas toujours bas. Il y a à nouveau des hauts. La vie est pleine de hauts et de bas, et nous pouvons apprendre à travers tout cela. Nous voyons la croissance de Pierre au fur et à mesure qu'il se développe, dans son audace et son empressement à suivre le Christ, mais aussi dans ses revers. Nous voyons dans Acte 4, et même avant cela dans Acte 2, lors de la Pentecôte inaugurale de l'Église du Nouveau Testament, nous voyons un Pierre différent. Mais dans Acte 4, verset 13, il est dit, Acte 4, verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Dieu faisait le travail. Il travaillait à travers eux d'une manière très puissante. C'est ainsi que nous voyons ses hauts et ses bas. Le reniement du Christ par Pierre n'a pas été sa seule difficulté ou correction. Plus tard, l'apôtre Paul a confronté Pierre à propos de son attitude à l'égard des païens convertis. Pierre ne voulait pas s'asseoir avec eux et faisait preuve d'hypocrisie. Ce fait est relaté dans Galates 2, versets 11 à 16. Galates 2, versets 11 à 16. Ce qui me surprend, c'est comment Pierre est tombé en extase et avait eu une vision d'une nappe remplie de toutes sortes d'animaux et la révélation dans Acte 10, verset 28, que Dieu préparait son esprit et qu'il ne devait traiter aucun homme de souillé ou d'impur. Il en est venu à cette compréhension. Cette révélation a précédé son voyage dans la maison de Corneille et la conversion de Corneille et de sa famille. Pourtant, en dépit de cette vision et de cette compréhension puissante, Paul a dûment corrigé Pierre plus tard. Nous voyons dans 2 Pierre 3, verset 15, que Pierre appelle Paul, verset 15, « notre bien-aimé frère », donc tout allait bien entre eux à ce moment-là. Mais l'exemple est révélateur. Même avec l'action directe de Dieu dans la vie de Pierre, par des visions et des révélations, le souvenir de cette vérité ne lui revenait pas toujours à l'esprit aussi facilement qu'on aurait pu s'y attendre. Il semble que la mémoire soit à la fois faillible et désespérément inconstante. Je ne sais pas ce qui y en est pour vous, mais je trouve que c'est le cas pour ma mémoire à moi. En revanche, notre appel est constant et stable, parce que c'est Dieu qui nous appelle. Romains 11, verset 29 nous dit, Romains 11, verset 29, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Irrévocables. Nous ne pouvons pas nous en repentir. Nous ne pouvons pas le regretter.
Dieu ne va pas retirer un appel une fois qu'il a été lancé et accepté.
Dieu n'est pas inconstant. Il est engagé dans notre salut. Je trouve intéressant un passage des Nombres dans Nombre 23, verset 19.
Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?
Vous pouvez compter sur les promesses de Dieu. Il nous accompagnera jusqu'à la fin.
Lorsque nous pensons au premier faux pas de Pierre, nous arrive-t-il parfois de renier le Christ, non pas verbalement, mais par nos actes? Le reniement du Christ par les œuvres est mentionné dans Tite 1, verset 16.
Nous luttons encore dans cette vie. Nous avons un appel,
Dieu nous l'a offert, mais nous devons travailler à notre salut. Nous devons continuer à faire les choses qui nous maintiendront près de Dieu. Pierre et Jean étaient des hommes sans formation ni enseignement, mais ils étaient en présence du Christ. Le Christ les enseignait, tout comme il nous enseigne à tous. Il est notre Sauveur, celui qui nous aidera à traverser les difficultés et les épreuves.
Comme nous l'avons entendu plus tôt,
combien de fois résistons-nous à notre appel par peur ou par sentiment d'inadéquation, comme Pierre l'a fait au début?
La peur peut être débilitante.
Certains individus luttent profondément contre la peur et l'inadéquation, mais Dieu les guidera, les aidera et les fortifiera. Nous savons que l'antidote à la peur est l'amour. L'amour véritable chasse la peur,
comme nous le lisons dans 1 Jean. Discutons de l'appel par lequel nous avons été attirés par notre Père et par le Christ, notre frère aîné.
Avez-vous fait l'expérience d'un appel? Avez-vous fait l'expérience d'être choisi? C'est intéressant à considérer, avec plus de 8 milliards d'habitants sur la Terre, une personne, vous par exemple, ne représentez que 125 millionièmes d'1%, soit 0 suivi de 6 zéros et 1, 2, 5 de la population de 8 milliards. Pour l'exprimer en termes plus faciles à visualiser, imaginons 80 000 stades, chacun accueillant 100 000 personnes. Si nous cherchions une personne spécifique dans tous ces stades, cette personne serait vous. Dieu a choisi de vous appeler. Évidemment, nous ne savons pas pourquoi, mais nous constatons que nous marchons sur les pas du Christ, ceux de Pierre et ceux de tous ceux qui nous ont précédés. Dans Matthieu 2, versets 14 et 15, le récit de Joseph amenant Jésus en Égypte comprend cette phrase, Matthieu 2, versets 14 et 15, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Le Père a appelé Jésus hors d'Égypte. De la même manière, nous sommes appelés à sortir du milieu de l'Égypte moderne. Cette référence dans Matthieu 2, 15 est tirée d'une double prophétie dans Osée 11, qui parle à la fois d'Israël et du Christ.
Regardons Osée 11. Osée 11. Nous voyons que Dieu travaille avec un très, très petit nombre de personnes. Dieu appelle encore des individus. Il n'a pas cessé d'en appeler. Le ministère travaille à les servir, à les contacter tous les jours. Dans Osée 11, versets 1 à 3. Osée 11, versets 1 à 3. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Dieu a envoyé des prophètes, mais Israël les a rejetés. C'est comme des moutons qui fuient le berger quand il les appelle. Naturellement, les moutons attendent la voix du berger et viennent à lui, mais ce n'était pas le cas d'Israël. Verset 2. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Ces dernières années, nous avons eu la chance d'avoir deux petits-enfants. L'un a presque 3 ans et l'autre vient d'avoir 1 an. Et c'est une bénédiction de les tenir par les bras lorsqu'ils font leurs premiers pas très difficilement. Ensuite, vous les voyez se tenir debout seuls et finir par traverser la pièce seule. Vous assistez à cette évolution et vous jouez un rôle essentiel en les aidant et en les encourageant. C'est ce que Dieu faisait avec Israël, en particulier avec Éphraïm, et par extension avec tout Israël. Mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Et lorsque Dieu nous appelle, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez nous. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. Nous sortons d'Égypte, nous sortons du monde et nous sortons de beaucoup de choses qui ne sont pas en accord avec la voix de Dieu. Dieu nous guérit alors de notre mode de vie tout entier. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est une voie de vie fondée sur la vérité. C'est ce que le Christ voulait voir en Pierre. Et il a dit, « Je vais te présenter ceci et j'ai besoin que tu le vois parce que c'est nécessaire avant que nous allions de l'avant, avant que d'autres choses puissent se produire. Parfois, si nous détournons ou nous évitons certaines choses, nous risquons de ralentir le processus. C'est pourquoi nous devons être courageux et reconnaître que ce que Dieu veut faire est toujours pour notre bien. Il veut nous guérir, guérir tout notre mode de vie. Mais nous avons un rôle à jouer. Nous devons nous assurer de notre appel et de notre élection. C'est à nous qu'il incombe de le faire. Nous savons que Dieu nous sauvera. Il est notre sauveur. Mais nous devons participer à ce processus. Dans Osée 11, verset 4, il est dit, « Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai de la nourriture. » L'Éternel, le Christ préincarné, a nourri Israël comme un berger nourrit ses brebis. Pierre a été établi dans l'Église pour faire de même. Il lui a dit, « Paie mes agneaux. Donne-leur de l'herbe. Donne-leur de la nourriture. Paie mes brebis. Fais-les paître. » Le mot grec utilisé ici est « poimeno », être un bon berger, de les guider, de les protéger. Dieu au moment parfait, c'est à cela que se réfère la prédestination dans les Écritures, il appelle certains individus au cours de cette période de 6000 ans pour leur offrir le salut. L'appel est un miracle divin. Comme l'a dit M. Weston dans le passé, « Ce n'est pas nous qui appelons, c'est Dieu le Père qui appelle. » Il ajouta, « Nous ne pouvons pas ouvrir un esprit, même avec de la dynamite. » Parfois, les gens veulent convertir les membres de leur famille, leurs collègues ou leurs amis. Mais c'est Dieu qui appelle, et c'est un miracle. J'entends parfois les gens dire, « Nous ne voyons pas beaucoup de miracles dans l'Église de Dieu. » Pourtant, dans le ministère,
Nous en voyons un chaque fois que quelqu'un écoute, continue à avancer dans la foi et finit par être baptisé. Dieu lui a ouvert l'esprit, un miracle divin. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas encore d'intervention physique spectaculaire que Dieu n'en est pas capable. Comme nous l'avons entendu précédemment, Dieu n'est pas limité. Rien ne lui est impossible. Vous et moi n'avons pas simplement cherché la vérité et nous y sommes parvenus. Désolé, nous ne sommes pas si intelligents. Je ne suis pas si intelligent, je le sais. Nous ne sommes pas si intelligents. Avec le temps, nous finissons par comprendre qu'il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de nous. C'est Dieu qui est intervenu pour son plan. Pour son plan. Paul souligne que le dessein de Dieu à notre égard n'est pas aléatoire. Il est soigneusement orchestré. Au travers de nos épreuves et de nos défis, de nos hauts et de nos bas, il fait concourir toutes choses au bien. Romains 8. Un passage familier pour beaucoup d'entre nous, mais regardons-le. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pierre était affligé. Il était confronté à une situation très difficile qu'il avait lui-même provoquée, qu'il devait affronter de front, les yeux dans les yeux. Pourtant, Dieu l'a guéri. Il a guéri cette blessure, ayant fait en sorte que toutes les choses concordent pour Pierre. Il fait de même pour nous. Parfois, nous ne le voyons pas parce que nous avons du mal à percevoir l'œuvre de Dieu du début à la fin. Le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est pourquoi nous avons été appelés à former le Christ en nous, à développer la pensée du Christ en nous, comme l'a récemment expliqué M. Weston dans un article du journal. Verset 29, « Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » C'est le but transcendant que nous partageons tous. Le verset 30 continue, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. » La justification implique principalement deux choses. Dieu nous pardonne, et nous impute sa justice. Il nous rend innocents. Ensuite, comme le Christ l'a dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Ce processus se poursuit tout au long de notre vie. Sous la nouvelle alliance, nous pouvons être justifiés. Nous pouvons continuellement nous adresser à Dieu, demander le pardon, et il nous l'accordera à condition que nous soyons sincères et engagés. Verset 30. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous sentez-vous glorifié en ce moment? Je ne me sens pas glorifié en ce moment. J'ai l'impression d'être dans un corps humain qui est en train de diminuer. Mais Dieu nous regarde et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il nous voit d'une manière très spéciale. Il voit le potentiel. Il voit quel est son plan pour nous. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu, dans son infinie sagesse, appelle certains et n'en appelle pas d'autres. C'est sa prérogative. Nous ne pouvons pas savoir pourquoi il vous a appelé et pas votre voisin ou votre famille. Il y a eu une période de notre vie il y a environ 28 ou 29 ans, où Dieu a appelé mes deux frères, ma femme, la femme de l'un de mes frères et moi-même, tous en l'espace d'un an environ. Mon père, qui n'a jamais été appelé,
ne savait ni lire ni écrire, et il était hostile à l'Église. Il disait à ma mère, « Si tu vas à la fête, si tu amènes les garçons à la fête, si tu amènes les enfants à la fête, ne reviens pas. » Et elle y allait avec foi. Elle revenait à la maison et il était humble. Il l'accueillait à nouveau, ainsi que nous tous. Elle a dû faire preuve de courage. Elle a dû surmonter sa peur. Elle a dû reconnaître qu'il y avait des hauts et des bas. Mon père a été témoin de la main miraculeuse de Dieu dans notre appel et plus tard dans notre conversion. Il parcourait la ville en disant, « Je sais où se trouve l'Église de Dieu. » Il en parlait aux gens. Cela a fait la différence. Cela a fait la différence. Je sais qu'avec le temps, il aura son appel, son opportunité. Ce que nous savons, c'est qu'un appel est un événement distinct dans notre vie. Nous pouvons identifier un moment où notre compréhension du plan de salut de Dieu nous a été présentée. Nous pouvons identifier un moment où nous avons compris notre responsabilité personnelle et notre obligation de rendre compte à Dieu. Nous avons reconnu que nous devions faire quelque chose de tout cela. Je dois faire quelque chose. La vie ne peut pas continuer ainsi. Si vous avez été appelé, pourquoi Dieu vous a-t-il appelé? Pourquoi Dieu appelle-t-il quelqu'un? Il y a des raisons. Pour connaître Dieu, pour l'aimer, pour lui obéir. Mais nous sommes appelés dans un but précis. Nous sommes appelés à faire partie du corps du Christ, à partager l'Évangile du royaume de Dieu avec toutes les nations et à avertir les nations descendantes d'Israël de l'approche rapide de la grande tribulation et du jour du Seigneur. Telle est la mission. C'est une période passionnante et dynamique de l'histoire pour un chrétien. Nous sommes appelés à être les futurs dirigeants, rois, sacrificateurs et juges. Dieu nous voit glorifiés. Il veut que nous y soyons. Luc 12, verset 32 nous dit, Luc 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ne crains point. Ainsi, mes frères, faites-vous en sorte que votre appel et votre élection soient sûrs. Est-ce que vous vous assurez de votre appel et de votre élection? Quelles sont les qualifications requises pour être appelé? Y avons-nous déjà réfléchi de cette manière? Quelles sont les qualifications requises pour être appelé? Reportons-nous à Matthieu 9. Matthieu 9, à partir du verset 9. Matthieu 9, verset 9. Le verset 9 nous dit, « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des payages et qui s'appelait Matthieu. Et lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Bien sûr, nous savons que les collecteurs d'impôts étaient des Juifs qui imposaient les taxes romaines à d'autres Juifs. Ils n'étaient pas bien vus. Pourtant, Matthieu s'est levé et l'a suivi. Verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Verset 11. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Frères et sœurs, avant que Dieu ne nous appelle, nous n'étions pas bien. Nous avions besoin de guérison. Il y avait des choses qui n'allaient pas dans notre vie. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » L'une des qualifications requises pour être appelé est d'être pécheur. Dieu ne manque pas de ressources à cet égard. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29. 1 Corinthiens 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles, les moindres de tous. Mettons notre nom ici. Du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Dieu n'appelle pas les nobles, les puissants ou les influents selon les critères du monde. Le verset 30 ajoute, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Dieu rachète l'humanité pour la ramener à lui. » C'est ce qu'il faisait avec Pierre. Il le rachète en lui disant, « Tu as mal agi, mais laisse-moi maintenant te confirmer mon amour. Je te pardonne, mais tu dois voir clair. Tu as besoin d'être touché au cœur. » Dieu rachetait Pierre et il nous rachète. Il nous rachète de nos anciennes voies, verset 31. « Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Peu de sages sont appelés, et nous pourrions dire qu'il s'agit d'une qualification. Dieu n'appelle pas les sages et les puissants de ce monde. Dans Matthieu 18, plusieurs à qui j'ai parlé pensent encore que Dieu essaie de sauver le monde actuellement, et c'est leur mission d'évangélisation personnelle. C'est une incompréhension totale de ce qu'est l'appel et ce que sont les obligations et les récompenses, ce qu'est notre responsabilité personnelle devant Dieu. Dieu a un plan et aujourd'hui n'est pas le seul jour de salut. Nous avons cette brochure qui en parle. Il y a une autre époque où Dieu travaillera avec tous les individus. Matthieu 18, verset 1. Matthieu 18, verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Une autre qualification serait donc que Dieu n'appelle que ceux qui sont prêts à être humbles, enseignables et soumis. Il les choisit et il les invite, et Dieu connaît leur cœur. Dieu connaît leur cœur. Reportons-nous à Luc 14. Luc 14, verset 25. Quelques-uns sont si orgueilleux, ils ne sont pas réceptifs à ce que Dieu met devant eux pour leur montrer et les aider à changer. C'est réellement comme parler à un mur. Luc 14, verset 25. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Une multitude suivait derrière lui. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, la croix étant un instrument de mort, signifiant notre volonté à faire mourir le moi, de mettre à mort le vieil homme. Verset 27, « Et ne me suis pas, ne peut pas être mon disciple. » Et au verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Une autre qualification, pourrait-on dire, est que nous devons être prêts à abandonner notre vie pour le Christ. Il doit y avoir cette volonté. Ensuite, c'est à nous de jouer. Nous devons nous assurer de notre appel et de notre élection. Nous devons agir en fonction de ces éléments, compter le coup et être prêts à aller jusqu'au bout. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Certains ne sont peut-être pas encore prêts à répondre à leur appel maintenant, parce que d'autres choses sont plus importantes pour eux. Quelles sont les récompenses de l'appel de Dieu? Dans un monde en proie à l'incertitude, nous sommes animés d'un espoir inébranlable. Nous sommes ancrés dans une vocation qui nous offre la paix et un but. La paix et un but. Cet appel comporte de nombreuses récompenses. L'appel de Pierre est un appel spécial. Reportons-nous à Matthieu 19. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, en parlant du règne millénaire du Christ sur la terre après son retour, verset 28, « Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Les 12 disciples seront donc établis dans le gouvernement de Dieu à l'avenir, jugeant les 12 tribus d'Israël. Jugeant les 12 tribus d'Israël. Jésus poursuit au verset 29, « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants, nous devons avoir cette volonté d'aimer Dieu plus que tout à cause de son nom, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Si Pierre et les autres apôtres ont cette récompense spéciale déjà définie, d'être assis sur 12 trônes, nous avons aussi des récompenses qui nous attendent. Nous savons que ces récompenses seront magnifiques dans le royaume de Dieu, mais il y a aussi de grandes récompenses dans cette vie. Pensez-y, nous venons de vivre les jours saints de Dieu, mais nous avons aussi été témoins récemment d'une fête célébrée par le monde. Considérons la bénédiction de ne pas être embourbés dans la tromperie des fêtes du monde comme Halloween, Noël ou les Pâques. En regardant les autres s'engager dans la folie de ces fêtes païennes, nous pouvons être reconnaissants de connaître la vérité. Dieu nous a ouvert l'esprit et nous a donné un mode de vie qui inclut ces précieux jours saints. Ce sont des points de repère dans notre vie, des moments que nous pouvons attendre avec impatience et apprécier pour la vérité et l'espoir qu'ils véhiculent. Il y a d'autres récompenses à cette voie de vie et à cet appel. Considérez les récompenses pour les familles de ceux qui sont appelés. Le mariage est maintenu. Reportons-nous à Éphésiens 5, verset 31. Éphésiens 5, verset 31. Aujourd'hui, nous voyons comment Satan a causé des ravages avec le mariage, l'institution sacrée du mariage. Et en faisant ainsi, il détruit le concept de la famille. Éphésiens 5, verset 31. Verset 31. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Verset 32. « Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Cela fait partie de l'appel de Dieu. C'est une belle chose quand un mari et une femme labourent dans la même direction. Portent ensemble le poids de la vie, partagent la grâce de la vie et prient dans la même direction. Lorsque cela fonctionne comme il se doit, cela représente le Christ et l'Église. Cela devient un formidable exemple pour le monde, pour les autres, et même pour ceux qui vivent près de nous, de la façon dont la vie est censée être. Les vraies valeurs sont également enseignées à nos enfants. Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, et c'est vrai. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. En tant que parents, nous orientons nos enfants vers Dieu en leur montrant l'exemple de la manière dont Dieu nous traite. Lorsque nos enfants atteignent un certain âge, ils transfèrent le respect et l'amour qu'ils nous ont témoigné et qui était réciproque à Dieu le Père et à Jésus-Christ. C'est un processus magnifique parce qu'il est multigénérationnel. Oui, nous savons que toutes les familles n'ont pas une situation parfaite. Dans 1 Corinthiens 7, verset 14, 1 Corinthiens 7, verset 14, il est écrit « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. » Ce passage me touche de près, parce que mon père n'a pas été appelé. Mais je suis reconnaissant pour ce verset, reconnaissant qu'il soit là. Ma mère a été appelée, elle a été baptisée en 1969, et elle est restée fidèle à son appel. Notre famille a été bénie par sa fidélité, et bien sûr, par l'appel de Dieu. Grâce à cela, notre famille est récompensée. Aujourd'hui, nos enfants connaissent la valeur de l'honnêteté, de la chasteté et de la préservation de la famille. Avec un peu de chance, nous élevons des jeunes qui veulent fonder une famille, qui veulent avoir des enfants. Il y a tant de récompenses. Même la bénédiction de voyager à des sites de fête et dans certains cas, peut-être même de voyager à l'étranger. Ils voient des choses que beaucoup d'autres ne voient tout simplement pas. Ils n'ont pas ces opportunités. Nos enfants savent ce que signifie aller à contre-courant de la société de Satan et se forger un caractère pieux. C'est ce que l'on enseigne à la maison. Nous comprenons que tout n'est pas parfait. Il y a des épreuves dans les familles, même au sein de l'Église de Dieu. Mais ces épreuves peuvent être traversées et affrontées avec courage en connaissant le Dieu qui nous a appelés, le Dieu que nous servons. Dans Hébreux 10, à partir du verset 35, Hébreux 10, verset 35, Hébreux 10, 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La promesse d'être un jour un fils de Dieu à part entière, dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous devons croître dans cette croyance.
cette assurance, cette confiance et faire confiance au Christ. L'appel est-il la même chose que la conversion? La conversion est le processus de changement, de transformation qu'un chrétien subit après son appel initial et la réception de l'Esprit-Saint après le baptême. Dieu est amour et nous devenons amour.
D'égoïstes et orgueilleux que nous étions,
nous devenons débordants de sollicitude pour les autres. Nous devenons humbles.
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce, sa faveur aux humbles. Dans Matthieu 20, versets 1 à 4 et 10 à 16,
nous ne les lirons pas pour gagner du temps, mais Matthieu 20, versets 1 à 4 et 10 à 16, nous avons l'histoire d'un propriétaire terrien qui est sorti de bonne heure pour embaucher des ouvriers afin de travailler dans sa vigne. Le salaire a été fixé à un denier par jour, et ses ouvriers ont commencé à travailler tôt. Les autres, qui étaient restés inactifs, nous pourrions dire dans le centre commercial ou sur la place du marché à proximité, ont été invités à venir travailler, mais pour un montant non divulgué. Les premiers travailleurs appelés se sont d'abord opposés au propriétaire de la vigne en se plaignant de leurs conditions de travail. Ils estimaient qu'ils méritaient une meilleure compensation pour avoir travaillé dans la chaleur de la journée et ils voulaient plus d'argent. Le propriétaire leur a expliqué que c'était sa prérogative de fixer les salaires et qu'ils avaient accepté. C'est vrai. Si vous acceptez quelque chose, soyez une personne de parole. Reconnaissez simplement que c'est ainsi que les choses vont se passer. La parabole se termine dans Matthieu 20, verset 16, et selon la version Darby, par cette déclaration énigmatique. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
M. Douglas Winnell, dans le Living Church News de novembre-décembre 2000,
je n'ai pas peur de me replonger dans les archives et de consulter les vieux articles. Ils sont vieux, mais ils sont bons, alors n'hésitez pas à le faire. M. Winnell écrivit un article intitulé « Qu'est-ce que l'appel de Dieu? » disponible en anglais seulement. Je cite, « Jésus a dit aux disciples qu'il avait déjà appelé, « Si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Matthieu 18, verset 3. Cela montre que l'appel n'est pas synonyme de conversion. Jésus a également mis en garde, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Matthieu 20, verset 16, dans la version Darby. En vérité, un appel ne signifie pas que la personne sera automatiquement dans le royaume de Dieu. Fin de la citation. Ainsi, Dieu nous appelle et il nous choisit, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous devons endurer, être fidèles jusqu'à la fin, comme il est écrit dans Matthieu 24, 13. Nous avons des choix à faire chaque jour, quotidiennement, et ces décisions nous mèneront à notre destinée. Nous devons choisir avec sagesse. Nous devons fonder nos choix sur la parole de Dieu et choisir le chemin de la conversion, le chemin du changement, en étant prêt à changer. Un appel ne signifie pas une entrée automatique dans le royaume de Dieu. C'est une invitation à croître, à changer et à persévérer. Une fois appelés et convertis, nous avons la responsabilité d'affermir notre appel et notre élection. Dans 2 Pierre 1, verset 11, 2 Pierre 1, verset 11, il est question de la part individuelle de ce processus qui est la nôtre. Ce n'est pas la part du ministre, ce n'est pas la part de votre conjoint, c'est votre part, votre responsabilité personnelle, votre responsabilité devant Dieu. Dieu a sa part, et nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est impossible pour Dieu de mentir, et il s'acquittera fidèlement de sa part. Dans l'article de M. Winnell, on peut également lire ce qui suit. Je cite, « Comme nous l'avons vu, ceux qui sont appelés reçoivent une compréhension spirituelle spéciale qui n'est pas encore disponible pour le reste de l'humanité. Cette compréhension leur permet de saisir le but véritable de la vie humaine et les grandes lignes du plan de Dieu. Les élus
qui ont accepté leur appel et se sont repentis sont conduits par le Saint-Esprit pour croître et changer. Ils ont appris à vivre selon chaque parole de Dieu afin de pouvoir l'enseigner aux autres. Ceux qui sont fidèles supporteront les épreuves et les tentations de cette vie. Ils éviteront d'être trompés par de faux enseignants et ne se laisseront pas distraire et dévier par les soucis de ce monde. Ils s'accrocheront à la vérité et ne compromettront pas les croyances que Dieu a fait comprendre à leur esprit. Ils recevront la récompense de la vie éternelle pour régner sur la terre en tant qu'êtres spirituels glorifiés parmi les tout premiers membres de la famille grandissante de Dieu. C'est la récompense ultime pour ceux qui ont été appelés et qui restent fidèles à cet appel. Fin de la citation. Alors, que ferons-nous, vous et moi, pour nous assurer que notre élection est remplie? Comment pouvons-nous rester fidèles à notre appel? Nous devons maintenir l'intégrité doctrinale. L'intégrité doctrinale. La vérité que nous avons reçue n'a pas de prix, elle ne change pas, et évidemment, nous croissons dans la grâce et la connaissance. Les réunions du Conseil des anciens auront lieu cette semaine et nous apprécions vos prières sur ces réunions, mais tous les changements qui pourraient survenir sont de petites choses prophétiques ou autres. Mais le cœur, le tronc de l'arbre de la vérité ne change pas. Nous devons répéter cette vérité dans notre méditation, nos conversations, nos prières et nos études. Pierre nous écrit dans 2 Pierre 1, verset 12. 2 Pierre 1, verset 12. 2 Pierre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Pierre savait que la mémoire est faillible et inconstante. Notre mémoire n'est pas toujours bonne pour nous aider à nous souvenir de ce que Dieu nous requiert de faire. Nous sommes entrés dans une alliance et une relation. Il y a des termes de cette alliance que nous devons respecter. Ce n'est pas nous qui fixons ces conditions. Le verset 12. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Pierre se souvint de l'avertissement du Christ concernant sa mort. Tu seras saint, et on va t'amener là où tu ne veux pas aller. Il est resté pragmatique quant à la conclusion de son appel terrestre, ayant confiance en Christ. Il avait assuré son élection, et nous devons faire de même. Nous devons être des vainqueurs. C'est une façon de s'assurer de notre appel et de notre élection. Romains 12, s'il vous plaît. Romains 12, verset 21. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et nous savons qu'Apocalypse 2 et 3 nous dit « à celui qui vaincra ». Nous devons vaincre, nous devons être prêts à changer. Si le Christ ou Dieu nous regarde dans les yeux au sens figuré et met en avant quelque chose que nous devons changer, nous ferions bien d'y prêter attention et d'avoir le courage d'y faire face. Une autre façon de nous assurer de notre appel et de notre élection est de comprendre qu'il s'agit d'une bataille spirituelle, nécessitant une armure et des tactiques spirituelles. Dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève, l'orgueil, contre la connaissance de Dieu. Mais bien être humble, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons avoir la pensée de Christ, prête à punir toute désobéissance quand notre obéissance s'accomplit. Lorsque nous obéissons à Dieu et que nous l'aimons pleinement, l'amour véritable chasse la peur. Nous aurons alors de l'assurance et pourrons affronter les épreuves et les tests qui nous attendent. Nous devons pratiquer le discernement. Pensons à la sagesse. La sagesse de Dieu est d'abord pure, puis pacifique et prête à céder. L'inverse est terrestre, sensuel et démoniaque. La différence est très claire. Nous devons développer notre discernement afin de pouvoir reconnaître le mal quand nous le voyons. Ne soyons pas vaincus par le mal. Identifions-le et évitons-le. Ensuite, recherchons et poursuivons les choses qui sont bonnes et justes. Nous devons évaluer régulièrement notre croissance spirituelle. Sommes-nous en train de changer? Sommes-nous bloqués sur un plateau? Sommes-nous dans un creux de vague et Dieu essaie-t-il de nous montrer quelque chose? Le cycle électoral aux États-Unis est terminé actuellement. Mais une sélection d'appels se poursuit silencieusement sous la surveillance du gouverneur suprême du vaste univers, Dieu le Père. Sommes-nous déterminés à embrasser notre appel? Le voyons-nous comme une bénédiction? Une vie remplie d'objectifs qui nous a été confiée? Dieu nous a appelés à recevoir une récompense remarquable, la possibilité de participer à l'établissement de son royaume sur la terre. Ne manquons pas cette invitation spéciale de Dieu. Alors, que faisons-nous pour affermir notre appel et notre élection? Terminons par Philippiens 1, verset 6. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.